l'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des Tiers-Mondes et de la solidarité internationale.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, autour de la table, je reçois Jean-François et Marie-Sylvie Achard, de Enfants du Mékong, et Marie-Noël de Vicher pour Alternatiba. Alors, bien sûr, nous allons vous parler de ce calendrier riche en ce moment pour la semaine qui s'annonce. Et tout d'abord, pour Enfants du Mékong, c'est la période des marchés de Noël pour justement pouvoir financer toutes vos actions. Alors, quelles sont-elles en ce moment ?
Alors, nous venons de terminer le financement du projet de construction d'un réfectoire et qui est également une salle d'études pour le foyer de Tangyang en Birmanie. Donc, c'est une construction qui va permettre donc à ce foyer de 57 jeunes enfants de manger dans des conditions décentes, parce qu'actuellement ils étaient dans un espèce d'abri, donc c'était une dalle avec des tôles en couverture et quelques panneaux de toile pour les murs. Donc le nouveau projet consiste à construire deux ponts au Laos pour désenclaver un village, le village de Ompan, qui est situé à 15 km du village où se situe l'école la plus proche. Alors, deux ponts sont actuellement en place, mais leur état de délabrement est tel qu'ils font descendre les enfants du pick-up pour passer le pont, pour ne pas prendre de risque vis-à-vis de la vie des enfants. Donc c'est pour financer ce nouveau projet de développement que nous continuons notre série de marchés de Noël sur Montpellier et sa région. Nous serons donc le vendredi 7 décembre au marché de Noël de Clapiers à 17h. Ensuite, le mardi 11 décembre à 11h au marché de Noël de Sanofi. Et enfin, le samedi 15 et dimanche 16 décembre à Bédarieux pour le marché de Noël qui aura lieu toute la journée.
Alors, vous participez aussi à l'Urban Trail de Montpellier.
Oui, alors nous y participons. Nous avons une équipe de 13 bénévoles qui viennent donc encadrer comme signaleurs le bon déroulement de la marche de l'Urban Trail, qui est cette épreuve sportive organisée en nocturne pour découvrir la ville donc à travers son patrimoine.
Oui, c'est la nuit que ça se...
Ça se passe la nuit. Cette course aura lieu de 19h à 21h.
Le samedi 8 décembre.
Alors, c'est le samedi 8 décembre à Montpellier. Le départ situe sur la place de la mairie.
Alors Marie-Sylvie, vous souhaitez nous transmettre le message d'espoir d'un jeune Birman à travers un livre qui s'appelle « La liberté s'apprend ».
Oui, effectivement, parce qu'on s'est rendu compte que nos actions, surtout en tant que programme de développement, on nous offrait beaucoup de projets de développement qui se trouvaient soit en Birmanie, soit au Laos. Et donc, j'ai eu l'opportunité donc, de lire ce livre dont on parlait sur notre revue Asie Reportage. Et donc, à l'approche de Noël, c'est Nodja, un jeune Birman, qui va nous envoyer un message de paix. Et je vais expliquer pourquoi. Sans paix, il n'y a pas de liberté. Donc, Nodja a travaillé comme aide-soignant à Chad. Chad, c'est une ONG qui est basée à Michina, qui est la capitale de l'État Kachin en Birmanie, et qui est aidée également par Enfants du Mékong. Donc, pour rappel historique, en 1947, les accords ont signé l'indépendance de la Birmanie avec les Anglais et reconnaissaient l'autonomie des États Kachin et d'autres ethnies minoritaires, les Chan, les Chin, les Karen, etc. Mais le lendemain de la signature de cet accord, le général Aung San fut assassiné. Donc, c'est là qu'a débuté la dictature militaire en Birmanie. Donc, revenons à la vie donc, de Nodja. Donc, c'est une journaliste française qui a reçu son témoignage dans ce livre « La liberté s'apprend ». Donc, il est de l'ethnie Jingpo, qui est une ethnie minoritaire venant du Tibet et qui vit dans l'État Kachin. Donc, le père a quitté sa nombreuse famille, ils étaient 6 enfants, Et c'est Nouja, à l'âge de 12 ans même, qui a aidé sa mère à accoucher de sa petite sœur alors que le père était parti, que le grand frère ne voulait pas s'en occuper. Donc, il nous raconte tout d'abord son enfance.
Le temps des inondations, nous étions des petits pêcheurs à main nue ou avec un vieux filet. Avant même que le jour n'affleure, nous vendions notre butin aux écailles d'or. C'est ainsi que j'ai commencé à travailler à 5 ans.
Donc à 6 ans, il raconte ses premiers jours d'école.
J'appris à me taire et à obéir. Lorsque nous posions trop de questions, l'instituteur nous battait. Nous n'avions qu'un bol de riz par jour et l'odeur de la craie me rappelait ma faim.
Donc les enfants de la dictature, on voit bien qu'ils étaient abrutis. Mais il nous parle également de l'enfer de la drogue. Ce fléau est d'après lui-même orchestré par le gouvernement afin que le mouvement indépendantiste Kachine se meure de l'intérieur. Son frère aîné a quitté à l'adolescence la famille pour se droguer et il en est mort à 26 ans. Malgré cela, Nouja nous parle du pardon d'une façon admirable.
Lorsque mon père rentra à la maison, après 11 ans d'absence, mon frère était mort, 2 ans plus tôt. Mon père et mon frère furent les deux personnes auxquelles j'eus le plus de mal à pardonner. Pardonner, plus encore que donner, est ce qui coûte le plus cher à l'homme, mais c'est indispensable.
Malgré ces épreuves, c'est ce qui l'a porté vers son destin d'aide-soignant au sein du Tchad, vers les populations Kachines qui sont isolées du nord de la Birmanie. La malaria, la dengue, bien plus que les conflits, étaient les fléaux de ces villages. Le plus dur était de lutter contre certaines croyances, et seules les femmes venaient aux formations.
En rentrant dans la case, j'ai vu 8 hommes en train de frapper le corps d'une petite fille à coups de sandales. Je n'arrivais plus à distinguer les marques des coups des marques de la dengue. L'enfant s'éteignit, je tenais son petit corps dans mes bras. Comment notre peuple pouvait-il être si peu éduqué? Elle n'était pas morte de la dengue, mais étouffée par les coups de 8 hommes.
Il s'est alors choisi pour mission d'apprendre aux enfants de la dictature comment vivre libre, aimer et pardonner. Il a continué à être au service d'EDM, d'enfants du Mékong, après son départ du Tchad, en étant le créateur de nouveaux centres d'apprentissage à Michina, donc la ville capitale de l'État Chine. Je voulais enseigner aux plus pauvres la couture, le travail du bois, de la pierre, parce qu'effectivement il y a des pierres très précieuses dans son pays, comme la jade, même de l'or, etc. Et donc je voulais leur enseigner le birman, l'histoire, les religions, les sciences et les traditions de nos ancêtres Kachines. Il conclut en nous parlant de son pays patchwork de plus de 100 ethnies différentes et de l'État Kachine encore à feu sang. Rien n'est fait pour laisser une place à la paix. Et on redit son message de Noël.
Sans paix, il n'y a pas de liberté.
Alors, cet ouvrage, vous le faites connaître et...
Alors, cet ouvrage, donc, il nous est cité dans une revue donc, d'Asie des reportages que nous avons publiée en septembre-octobre 2018. Et je l'ai commandé à la librairie Géosphère à Montpellier. Donc, c'est « La liberté s'apprend, un destin birman ». Bien sûr, c'est écrit, c'est l'histoire de Nouja et c'est écrit par une journaliste qui s'appelle Fanny Chéroux et c'est édité par Bayard.
Donc, vous le recommandez comme livre offrir.
Voilà, je le recommande parce que vraiment, j'ai lu d'autres livres sur la Birmanie comme ceux de Sylvie Rieu qui, elle, parle de tous les États qui luttent contre leur indépendance, l'État Chin, l'État Kachine, l'État Chine, le problème des Karen, etc., et même des Rohingyas. Et donc, elle a une vue très générale, puis une vue de journaliste. Alors que là, c'est vraiment un témoignage d'un Birman et qui nous émeut par tout le parcours difficile qu'il a eu depuis son enfance et comment, malgré ce parcours si difficile, il s'en est sorti pour créer cette école dans la capitale de l'État Kachin en Birmanie.
Alors, un bel exemple, en effet. Nous allons écouter une musique asiatique. Alors, je me tourne vers Marie-Noëlle de Vicher, d'Alternativa. Voilà, Alternativa toujours actif, puisque à l'heure actuelle, nous avons eu aussi, en parallèle au bac Friday à Montpellier, le Climate Friday.
Oui, c'était en fait, on est nombreux dans le monde entier à dénoncer ce Black Friday qui est vraiment le jour où on doit encore plus dépenser et encore plus dépenser les ressources de la planète, les énergies. Donc, on a lancé un mouvement qui s'appelle Climate Friday et l'idée est vraiment de mettre en cause la consommation, la surconsommation, l'hyperconsommation. Et donc ici à Montpellier, malheureusement, pas toujours le vendredi parce qu'il a plu, mais le samedi aussi, devant le polygone à Montpellier, on a fait plusieurs actions pour permettre aux gens de réfléchir à ce qu'ils font, leur montrer que les questions du super emballage, leur demander si on est vraiment heureux de consommer, leur montrer qu'un bon moment convivial vaut au moins plus qu'une heure de shopping. C'est-à-dire montrer vraiment qu'il y a d'autres alternatives dans la vie que de consommer. Donc c'est pour ça que on a dit le Black Friday, c'est vraiment un vendredi noir pour la planète, donc transformons-le en vert. Et ces actions-là, on va les poursuivre probablement pendant les courses de Noël.
Alors, vous vous êtes exprimé aussi concernant ce mouvement des Gilets jaunes qui se développe en ce moment par rapport à tout ce qui est justement le problème des transports
et des
combustibles.
Oui, justement, ça nous a posé problème parce qu'on ne peut pas nier que faire une hausse de carburant sans contrepartie sociale, sans équité, c'est inaudible. C'est inaudible. Donc, ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est que, oui, une hausse de carburant, ça peut être une mesure fiscale pour inciter à abandonner le tout voiture, mais pour ça, il faut donner des alternatives, des alternatives qui soient socialement acceptables et justes. Et ces alternatives se déclinent, et c'était notre slogan, c'est se décline localement. Et on a lancé tout le réseau climat dont fait partie Alternativa, on a lancé une alternative à la loi mobilité qui était en train de se discuter au Parlement, et en déclinant des propositions et en les déclinant localement. Et parmi celles-ci, par exemple, on pourrait dire un plan d'investissement pour le transport du quotidien. On se souvient qu'il y a eu 1200 vélos qui ont manifesté il n'y a pas très longtemps pour dire que Montpellier est très très mal placé en infrastructure pour les vélos. On se souvient des plans aussi de déplacement qui devraient être obligatoires, et on parle maintenant de l'enfer de l'ouest de Montpellier et de toutes les entrées de ville qui sont constamment embouteillées parce que les gens en périphérie de Montpellier n'ont pas d'autre alternative que prendre leur voiture. Il faudrait aussi une règle climatique, environnementale, c'est-à-dire ne rien construire sans que l'utilité et l'impact climatique et l'impact écologique aient été vraiment évalués. Je ne suis pas du tout sûre que le prochain quartier Cambacérès de 350 hectares sur des terres agricoles soit tout à fait climatiquement justifié. Pourquoi encore un nouveau centre commercial au nord de Montpellier, le fameux projet Oxylan contesté? La même chose, on devrait régénérer nos trains du quotidien, et entre-temps, on nous a fait une gare à l'extérieur de Montpellier qui est uniquement accessible par voiture, et encore quand on a de la chance. Donc, pour le moment, ce qu'on a à Montpellier, au lieu d'avoir... on a un magnifique, maintenant, contournement pour le ferroviaire. Mais entre-temps, on a 12 voies de circulation au sud de Montpellier qui sont bien pleines de camions. Donc, ça a été un petit peu notre raison de dire, OK, la hausse de carburant, c'est un outil, mais tout seul, il n'a aucun sens.
Oui, donc, on va voir les... Comment va réagir le gouvernement et ses propositions?
Voilà, alors cela dit, on n'a pas des propositions hyper originales. Il y a beaucoup d'autres gens qui font ces propositions-là. Mais on a voulu marquer parce que c'est très vite dire les hausses de carburant, c'est les écolos, c'est l'écologie qui est en cause. Or, ce n'est pas le cas. L'écologie, c'est, nous demandons la justice climatique, c'est-à-dire le droit pour chacun de pouvoir s'adapter à la crise climatique et selon ses moyens. Et on ne peut pas demander des efforts énormes à des gens qui ont des fins de mois difficiles. Donc, c'est tout cet équilibre. On n'a jamais demandé d'augmenter la fiscalité, rien que pour l'écologie, sans rien faire en contrepartie.
Donc, aussi, vous êtes en train de préparer la grande manifestation mondiale de la marche pour le climat.
Eh oui, ça, c'est samedi prochain. Alors, juste pour vous dire que c'est vraiment mondial, alors, c'est une marche où là, ça s'appelle Alarme Climat, ou l'alarme climatique, ou Climate Alarm. C'est-à-dire que de par le monde, on va être au milieu de la COP24, on va dire, les voyants sont au rouge. Alors, certains pays ont commencé avant nous, juste pour actualité. Hier dimanche, sous la pluie, un petit pays comme la Belgique a réussi à mettre 65 000 personnes à Bruxelles, ils se sont réunis pour appeler et pour sonner l'alarme du climat. Et il y avait du monde de partout, de toute classe sociale, de toute langue. D'ailleurs, c'était beau. C'est un énorme succès qui montre vraiment la mobilisation des gens. Alors j'espère que nous, maintenant, on le fait le 8, qui est plutôt le jour mondial. On sera au milieu de la COP24. J'espère avoir un maximum de monde. Juste pour montrer que, d'une part, nous sommes prêts. C'est-à-dire qu'en tant qu'individu, nous, en tant que collectif qui prônons toutes les alternatives que chacun peut déjà mettre en place chez lui en fonction de ses moyens, nous disons, nous sommes prêts à le faire, mais toutes ces actions individuelles n'ont aucun sens ou ont peu d'impact si on n'est pas relayé et épaulé par des actions collectives. Et ces actions collectives, encore une fois, elles sont locales. C'est-à-dire qu'elles... C'est au niveau local que 81% des solutions se retrouvent. On reparle des transports, on reparle des plans d'aménagement et des extensions, la protection des terres agricoles, la protection des espaces verts, au profit donc de l'agriculture et au détriment du foncier individuel, des grandes infrastructures souvent inutiles et souvent imposées, qui sont contestées. Donc ça va être une marche à la fois très positive, nous sommes là, nous sommes prêts, dans le cortège il y aura beaucoup d'associations qui mettront en avant les solutions qu'elles proposent, que ce soit dans le transport, dans la vie quotidienne à la maison, dans l'énergie. Il faudrait aussi avoir effectivement des énergies qui soient plus proches de nous, qu'on puisse gérer en tant que citoyen, et on a des associations maintenant qui le montent, on a des collectifs qui le font. Et tout ça doit être aidé par des décisions publiques qui peuvent déjà être locales. D'un autre côté, on dit sans l'apport de décisions collectives, de plans climat réellement appliqués et très ambitieux, on n'avancera pas, ça restera minoritaire.
Oui, alors tout se joue évidemment dans cette manifestation en Pologne qui réunit beaucoup d'États, mais déjà certains grands États se sont déclarés comme ne voulant pas appliquer la COP21.
Oui, le même, c'est-à-dire qu'ils renoncent au traité qu'ils ont eux-mêmes signé. On citera les États-Unis, on citera l'Australie qui a très envie de partir, le Brésil qui a déjà annoncé que même s'ils ne s'en vont pas, ils ne l'appliqueront pas. Donc c'est très inquiétant. C'est d'autant plus important que l'Europe soit vraiment un exemple. Et la France n'est pas un tout petit pays d'Europe, donc la France devrait être... Un exemple, or pour le moment, les émissions de gaz à effet de serre en France ne font qu'augmenter. Nous-mêmes, nous ne sommes pas vertueux.
C'est ce que dit Greenpeace d'ailleurs.
Ah oui,
il dit
oui.
Que Monsieur Macron, le climat vaut mieux que du blabla. Et les émissions de gaz à effet de serre en hausse sont en hausse. Les forages pétroliers au large de la Guyane sont poursuivis. Les importations massives d'huile de palme sont aussi continuées. Des nouveaux projets routiers et autoroutiers sont à l'étude, des retards injustifiables sur les énergies renouvelables.
Et oui, ça c'est Greenpeace est là tout à fait dans son créneau, mais évidemment je ne pourrais qu'écrire en tant qu'Alternativa, nous souscrivons complètement à cette position.
Voilà, et donc hélas, Emmanuel Macron n'est pas le champion du climat.
Ah non, non, Emmanuel Macron, made grid the planet again, j'aurais bien aimé l'entendre. Il a reçu le prix du champion, alors je ne vais pas faire du Macron bashing parce que il y en a assez qui le font pour le moment, mais quand on a reçu le prix du champion du climat et de l'environnement à l'ONU, on devrait être à la hauteur de ses engagements. Et pour le moment, on ne sent pas effectivement cette ambition. Donc, on veut descendre dans la rue aussi, de la façon la plus pacifique, et j'espère que ce sera pacifique le samedi 8. Et en plus, ce ne sera pas qu'en France. Je crois qu'on a une centaine de villes dans le monde à manifester le même jour.
Voilà, c'est ça. Donc, à Montpellier, le rendez-vous est à 14h30 à la Place de l'Europe.
Place de l'Europe, oui. Et on en fera un cortège qui ira de la Place de l'Europe à la préfecture avec une à la comédie. Alors, on demande à tous de venir avec leur calicot, leur pancarte, leur slogan, leur chant, leur faire un maximum de bruit. Venez aussi avec tout ce qui fait du bruit, non pas seulement votre téléphone, mais des cloches, des tambours. On va faire du bruit, on va sonner l'alarme. Donc, c'est ça qui est important. Venez plutôt en vert, on va essayer d'avoir un cortège vert, et il y aura des surprises, et puis on terminera par un goûter convivial sur la place de la préfecture, et puis je vous garantis qu'il y aura du soleil. J'ai regardé la météo, et notre commission météo est très très bonne.
Alors, il faut voir comment déjà le rapport spécial du GIEC sur, justement, était très alarmant.
Ah ben, apparemment, il reste 2 ans et demi. Hein.
Voilà. Il veut vraiment que ça bouge d'ici 2030.
Ah oui, oui. Et si on doit bouger tout de suite pour qu'en 2030, on soit vraiment prêt.
Et alors justement, ce qui s'est passé déjà en Pologne, eh bien, un porte-parole du groupe AFIC dit « Pour l'Afrique, quelles que soient les péripéties de la géopolitique, nous n'avons pas le choix ». Nous ressentons les impacts du changement climatique tous les jours. Nous allons amplifier notre action contre le changement climatique.
Eh oui, et c'est un peu ce qu'on dit aussi, c'est que non seulement chez nous, mais surtout dans les pays justement les plus faibles, c'est eux qui ont l'impact sur qui vont être le plus affectés et le plus vite. Par les changements climatiques et avec des difficultés d'adaptation. Par contre, moi, j'ai dit toujours, pour l'Afrique, c'est une chance. Parce que ils peuvent passer une étape. Ils ne sont peut-être pas obligés de passer par cette étape où on a gaspillé, où on a pollué, et d'avoir tout de suite un développement beaucoup plus compatible avec le climat. Mais entre-temps, c'est des populations extrêmement fragiles. Et les réfugiés climatiques,
il
y en a déjà beaucoup, et ça va ne faire que croître et embellir. Donc quand on parle des problèmes de migrants, moi j'appelle ça des réfugiés, et c'est pas que économique, c'est économique parce qu'ils n'ont plus, ils peuvent plus vivre sur leur propre terre.
Donc l'alarme est là, il faut agir tout de suite, et c'est à l'appel de plusieurs associations.
Oui, alors on a le collectif citoyen qui s'est donc créé récemment, qui s'appelle Il est encore temps, qui est vraiment un collectif citoyen qui a déjà lancé deux marches à Montpellier, qui ont eu beaucoup de succès suite à la démission de Nicolas Hulot. Après, on a aussi Alternativa Montpellier. On a e-boycott Montpellier qui dénonce les questions de consommation, Vélocité qui est devenue une grosse association, qui est très active, qui seront là avec leur vélo. Oxfam Montpellier, Greenpeace Montpellier dont on a déjà parlé, ANV COP 21 de Montpellier qui est le pendant d'Alternativa pour des actions non violentes plus spectaculaires contre les projets climaticides. La Carmagnole qui est un lieu de rendez-vous, qui est un tiers-lieu pour toutes les alternatives. Et puis Méditerranée Durable qui est un collectif qui réfléchit à l'avenir de la Méditerranée dans ce contexte de changement climatique.
Alors donc, rendez-vous.
Rendez-vous Place de l'Europe, 14h30, samedi 8 décembre.
Alors, voulez-vous rappeler où on peut joindre Alternativa ?
Alors, on a une page Facebook pour ceux qui sont sur Facebook. Et puis sinon, on a un site qui est, on a une adresse mail, c'est montpellier@alternativa.eu. Ça, il y a toujours quelqu'un pour vous répondre. Et on a un site internet, je n'oserais plus le dire de mémoire exactement. Mais le plus actif, c'est le Facebook. Donc, si vous n'êtes pas trop réfractaire à Facebook, allez-y, parce que là, l'actualité est continue. Mais il y a aussi le site de Il est encore temps. Donc, et puis, le site simplement de la marche, il y a aussi un site qui prend toutes les informations. Donc, avec un tout petit peu d'effort, mais minimum d'effort sur Internet, vous trouvez énormément d'informations.
Eh bien, merci Marie-Noël. Alors, on va écouter la musique que vous avez choisie.
Oui, je voudrais rappeler, c'est une musique rap de Calune. Calune est un rappeur qui nous a accompagnés dans le tour Alternativa et nous a fait une chanson qui s'appelle Les fleurs de la résistance et qui montre que voilà, les citoyens peuvent résister, s'opposer, mais aussi construire ensemble.
On prend soin de notre terre parce qu'on est bien les seuls à pouvoir le faire. On y met beaucoup d'amour au nom de toutes ces choses qui nous entourent. On se bat pour un avenir meilleur. On fait ce qu'on peut, ce qui nous semble bon. Pardon si on fait des erreurs, on pouvait pas rester dans l'inaction. Faudra en grimper des étages, en inventer des solutions. En placer le béton par du végétal. Le vert est la couleur de la révolution.
On se bouge, on se lance, on vise l'autosuffisance.
On passera des nuits debout et des journées à genoux dans les champs. On apprendra de nos doutes toujours dans le partage et dans l'échange ensemble. On s'en ira le long des routes, montrer comment la nature se défend. Si on refuse de le faire pour nous, qu'on le fasse au moins pour nos enfants. Parce qu'on veut pas être complice, faut bien qu'on puisse faire pousser des astuces. S'extraire de ce qui nous divise, faire notre part et 100 fois plus. Sans jamais oublier nos piliers, d'un côté je m'oppose, de l'autre je propose. Puisqu'il semble que nous sommes les derniers à pouvoir faire changer les choses.
On se bouge, on se lance, on vise l'autosuffisance.
Alors je termine par le calendrier de cette semaine. Eh bien, dès ce soir, à 18h30, à la salle amphi du rez-de-chaussée 6 rue des Augustins à Montpellier, face au manège de l'Esplanade, c'est « Regard israélien sur la tragédie palestinienne », une conférence débat animée par Eleonore Bronstein, de l'ONG israélienne Décoloniser, autour du livre Nakba. À travers ses pages apparaît l'espoir d'une nouvelle génération d'Israéliens qui puissent se libérer d'une identité collective coloniale afin de pouvoir imaginer une cohabitation plus juste, une terre légitime pour tous. C'est organisé par l'association France-Palestine Solidarité 34. Donc ce soir à 18h30, 6 rue des Augustins. Demain, mardi 4 décembre, à 20h, à la Brasserie du Dôme, 2 avenue Georges Clémenceau à Montpellier, c'est Cinéma Maghrébin Contemporain, une présentation de 5 films de jeunes réalisateurs, Le Sac de Farine, de Khadija Leclerc, de 2012, Les Bienheureux de Sophia Djama, 2017, Les Chevaux de Dieu, de Nabil Aouch, 2012, Lorané, de Lies Salem, 2012, et « À peine j'ouvre les yeux » de Leila Bouzid. C'est organisé par Coup de Soleil, en collaboration avec l'association Plan Rapproché, donc mardi, 20h à la Brasserie du Dôme. Samedi 8 décembre, de 12h à 17h au Gazette Café 6 rue Levin, c'est la célébration des 120 ans de la Ligue des droits de l'homme, avec table ronde et ateliers. Et un débat, quel constat pour quelle action commune contre l'extrême droite. De même, samedi 8 décembre, de 18h à 19h30, au Gazette Café, 70e anniversaire de la Convention internationale des droits humains à l'initiative de 6 associations, Ligue des droits de l'homme, la CIMAD, ATD Carmonde, Amnesty, ACAT, Osez le féminisme, qui témoigneront de leurs actions concrètes pour défendre ou promouvoir ces droits. Je rappelle que le samedi 8 décembre, aussi en nocturne, a lieu l'Urban Trail à Montpellier de 17h à 21h avec la participation des enfants du Mékong. Samedi 8 et samedi 15 décembre de 10h à 17h à Montpellier aura lieu une formation, donc deux jours de formation gratuite, samedi 8 et samedi 15 décembre, pour préparer son projet de mobilité de solidarité internationale. L'objectif de la première journée est prendre conscience des motivations qui sous-tendent les engagements, approcher la complexité des problématiques liées à la solidarité internationale, et les objectifs de la deuxième journée, se mettre en situation interculturelle, appréhender la sécurité en mission, réfléchir sur ses propres actions et leurs conséquences éventuelles. Un repas est partagé sur place. Il faut s'inscrire auprès de la Maison des Tiers-Mondes et de la Solidarité Internationale au 04 67 02 13 42 ou contact@mtmsi.fr. Enfin, le vendredi 7 décembre a lieu à Montpellier le rassemblement « Nous voulons des coquelicots ». Rassemblement donc à 18h30 place de la Comédie pour dire non aux pesticides de synthèse et faire signer l'appel qui a déjà rassemblé plus de 400 000 signatures. Des rassemblements identiques sont prévus à Agde, Béziers, Ganges, Frontignan, Maugout, Bédarieux, Cournon-Terral, Saint-Vincent-de-Barbérac, Saint-Martin-de-Londres et la suite, comme tous les premiers vendredis de chaque mois. Donc je rappelle, samedi 8 décembre, la marche mondiale pour le climat et qui départ à 14h30, place de l'Europe à Montpellier. Dimanche 9 décembre, de 10h à 17h, au centre CEMA, rencontre Grand Sud du collectif Pacte Civique 34, les groupes Vie Nouvelle de Drôme-Ardèche et de Rodez, échange, partage, information, expérimentation de la mallette sur la non-violence, réalisée par le groupe LVN et Pacte Civique de Rodez, avec le MAN et la CAT. De 10h à 12h, c'est réservé aux membres du Pacte Civique et de Vie Nouvelle. Et de 12h à 13h30, un repas partagé. Et puis de 13h30 à 17h, violence en pièces et pas à pas. À bientôt, chers auditeurs.